C'est les émissions, ça commence bien. L'émission des Apatrides Anonymes du 28 novembre 2019 dans les studios de Choc ou en balado sur choc.ca ou sur apatridesanonymes.info. On va rester dans les coordonnées. On peut être joint via notre page Facebook ou à apatridesanonymes@resist.ca. Simon à l'animation cette semaine. Lors de la dernière émission, Marie-Ève Animée s'est présentée comme étant votre hôtesse. Alors moi, je serai votre hôtesse aussi pour cette 16e édition de notre émission. On est en compagnie de Marie-Ève qui est à la console actuellement et de Mathieu qui est en studio avec moi.
Bonjour.
Salut Mathieu. Donc avant de commencer, une petite statistique, appelons-la la statistique de la semaine. On apprenait la semaine dernière qu'il y a actuellement 330 000 enfants qui sont détenus dans 80 pays pour des raisons de migration et qu'au moins 103 000 le sont aux États-Unis seulement. C'est selon une récente étude commandée par l'ONU, c'est la première fois qu'on dépasse le cap des 100 000 enfants migrants détenus aux États-Unis. Ce total comprend les enfants emprisonnés avec leurs parents, de même que ceux qui sont détenus dans un autre endroit que leurs parents. Et qu'ils soient avec leurs parents ou non, ben les conséquences sont désastreuses, évidemment, et irréversibles pour leur développement. Il faut rappeler que le Canada pratique aussi la détention illimitée d'enfants migrants et qu'on est en train de construire une plus grande prison pour migrants à Laval et qu'elle contiendra des infrastructures destinées aux enfants. Ce sera une œuvre de la firme d'architecture Lemay, dont le slogan est « Attention ». Intelligence créative, valeur collective. Sinon,
<C'est bon. rire>
au menu de l'émission des Apatrides Anonymes cette semaine, des actualités locales avec moi-même, donc une sorte de dossier racisme ordinaire et profilage, le traditionnel agenda antiraciste avec Mathieu. Marie-Ève va recevoir David Austin, qui est auteur et professeur, pour une entrevue sur le racisme en milieu universitaire. Et dans quelques instants, Mathieu, on va aller te rejoindre pour... tu voulais pas appeler ça le bon coup cette semaine?
Non, pas du tout. C'est pas un bon coup.
OK, on va découvrir pourquoi dans un très court instant. Mathieu, tu es en studio avec nous pour non pas le bon coup de la semaine, mais le...
Un genre, j'ai appelé ça un genre de flashback la semaine, même si c'est quelque chose qui n'est jamais disparu. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est un nouveau titre de chronique, mais on s'amuse à en trouver parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent, tellement d'angles pour voir les choses qu'on peut trouver des nouveaux sobriquets à nos chroniques.
On verra si c'est vraiment amusant.
J'ai pas dit, ben amusant dans le sens, ouais, on peut rire jaune un peu aussi des fois. Mm-hmm. Le sujet n'est pas amusant, non. On parle des relations France-Afrique, donc la France-Afrique dont je vais vous reparler un petit peu à la toute fin de cette chronique. Mais ça m'a sauté au visage parce que la semaine passée, le premier ministre français, Édouard Philippe, était en visite officielle à Dakar, au Sénégal, pour aller rencontrer, entre autres, le président sénégalais. Et c'était une rencontre pour renouveler leur engagement à coopérer ensemble pour lutter contre les migrations irrégulières. OK, ça, c'est le titre officiel.
On veut pas de migrants irréguliers français en Afrique, si je comprends.
Exactement, t'as tout compris, Simon. C'est ça, les rapports France-Afrique. Je vais l'expliquer après. Donc, finalement, rencontre avec le président Macky Sall au sujet de la lutte anti-djihadiste aussi officiellement. Mais quand on fouille un peu dans les articles, on voit que, dans la foulée des nouvelles mesures en immigration en France, dont nous parlait Marie-Ève il y a deux semaines, on dirait qu'Édouard Philippe, le premier ministre, fait la tournée des pays amis pour dire on veut accueillir des bons candidats à l'immigration, pas n'importe qui, on va renforcer aussi notre collaboration pour lutter contre l'immigration dite illégale. Donc, on parle d'immigration professionnelle et de quotas, comme nous parlait Marie-Ève il y a deux semaines. Et il y a quand même des citations du premier ministre Philippe qui sont assez savoureuses. Il dit, entre autres, une politique migratoire, ce n'est pas qu'une addition de contraintes, c'est aussi l'expression de choix affirmés.
C'est beau.
C'est beau, hein? Ou la délivrance des titres de séjour doit répondre à des principes clairs et ne pas être le fruit d'une forme de passivité.
Je la compte, quoi.
Ouais, il faut vraiment y penser. Mais là, on vire vite en disant que la France a un certain pouvoir par rapport à un pays comme le Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a 2 milliards d'euros qui ont été distribués au Sénégal en aide publique au développement depuis 2007, et M. Philippe rajoute des efforts qui doivent produire des résultats sur l'immigration irrégulière. Donc, il fait le lien entre l'aide publique et l'immigration irrégulière. Ensuite, on apprend que la France, toujours dans la même rencontre, soutiendra la modernisation de l'État civil, avec certains services qui seront améliorés, comme la police, la gendarmerie, qui sont dédiés au contrôle des frontières et à la lutte contre le trafic de migrants. Donc, on vit vite dans la contrainte, dans la répression. On note aussi que 7 % des étudiants étrangers acceptés en enseignement supérieur en France sont sénégalais, et on veut augmenter le nombre de passeports talents. C'est le terme utilisé pour les quotas professionnels qui sont réservés évidemment aux étrangers. Donc, on parle de gens disposant de certaines qualifications et aussi de visas de circulation de longue durée qui seront améliorés, et les délais seront réduits. Donc, il y a ça. Les quatre sujets qui étaient à l'ordre du jour de la rencontre, c'était sécurité, défense, éducation, jeunesse et formation, émergence au Sénégal et mobilité et migration. Et là, on apprend que dans la même rencontre, finalement, il y a eu deux accords d'armement militaire qui ont été signés, c'est-à-dire, ça je sais pas c'est quoi, trois patrouilleurs hauturiers du groupe français Kership, plusieurs centaines de millions d'euros, et la vente de missiles du groupe français MBDA. Donc, on est dans le total. Tout est là. On voit les rapports assez vite. Et pour, on pourrait dire, pour rajouter sur la cerise sur le sundae ou sur le gâteau, il y a eu restitution d'un sabre d'un chef de guerre qui s'appelle El Hadj Oumar Tall, un érudit musulman qui a conquis au 19e siècle une grande partie de l'Afrique contre l'armée coloniale française. Et ce sabre était exposé auparavant au Musée des Invalides, Musée de l'Armée à Paris. Mais quand on fouille un peu, on apprend qu'il est prêté temporairement pour vérifier s'il va être exposé dans des bonnes conditions à Dakar.
C'est un projet pilote.
Exactement, tu as tout à fait compris. Et le président du Sénégal d'affirmer qu'il fallait du courage pour s'élever au-dessus du tumulte et entreprendre l'exercice délicat de rapatriement du patrimoine africain. Le président Macron a eu ce courage. Fait qu'on voit tous les rapports qui nous rappellent les vieux souvenirs au niveau de la France-Afrique, évidemment. Et on finit en parlant un peu de la lutte anti-djihadiste, parce que c'est dans l'air du temps, évidemment. Donc, l'armée sénégalaise va passer de 20 à 30 000 soldats d'ici 2025 et va faire partie du nouveau partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel qui a été annoncé au G7 à Biarritz l'été dernier, et qui va donc appuyer des pays du G5 Sahel qui comprend entre autres le Mali, le Niger, etc., etc. Donc, plein d'éléments dans un court article, dans des courts articles que j'ai lus, qui nous représentent bien encore les rapports post-coloniaux, qu'on pourrait dire, entre la France et certaines de ses anciennes colonies. Et pour rappeler rapidement aux gens en terminant, l'expression France-Afrique date des années 60, de l'époque du général de Gaulle, avec Jacques Foccart, qui était son ministre responsable de créer cette espèce de rapport-là, et qui était caractérisé à l'époque par des réseaux extra-diplomatiques. Hein, services de renseignement, entreprises privées, expéditions militaires, et aussi par l'ingérence directe des autorités françaises dans les affaires intérieures des anciennes colonies.
Oui, le commerce aussi devait quand même faire partie pas mal des ententes.
Là. Entreprise, c'est ça exactement, ouais. L'extraction, donc tout ça. Et aujourd'hui, le terme est toujours utilisé et on l'associe plus pour dénoncer la politique étrangère de la France en Afrique, non seulement avec les anciennes colonies, mais aussi l'ensemble des pays francophones d'Afrique, comme le Burundi, le Rwanda ou le Congo, visant des interventions militaires dans ces pays en crise, comme la Centrafrique actuellement, le Mali, la Côte d'Ivoire, il y a quelques années. Son rôle prépondérant dans certains épisodes dramatiques de l'histoire africaine, tels que le génocide au Rwanda, ou encore des scandales financiers comme l'énorme affaire Elf, il y a quelques années. Donc, de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, toujours la France-Afrique, et avec Macron, l'homme moderne, on est toujours dans le même bourbier. Donc, voilà, c'est une nouvelle qui est passée un peu sous silence ici, mais je trouve ça intéressant de voir à quel point la France est toujours active. Il faut rappeler que la France, au Sénégal, par exemple, est le principal investisseur au Sénégal et le principal client aussi du Sénégal. Donc, voilà.
On ressent toujours le rapport colonial, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Donc, dans un très court instant, c'est Marie-Ève qui vient en studio avec son invité, David Austin.
de retour aux apatrides anonymes. En juin dernier, un étudiant noir de l'Université d'Ottawa qui a été arrêté par le service de sécurité de l'établissement parce qu'il n'avait pas de papier d'identité sur lui. Il a eu beau répéter aux agents que sa carte étudiante se trouvait dans son bureau, les agents de sécurité ont fini par lui passer les menottes pour s'être trouvé sans permission sur le terrain de l'UQO. À peu près au même moment en France, un étudiant noir de l'Université Sciences Po de Lyon, hautement élitiste et très prestigieuse, publiait une série de tweets à propos de la discrimination raciste dont il a été l'objet pendant la fin de sa scolarité. Discrimination à la fois de la part d'autres étudiants et étudiantes, de professeurs, mais aussi de l'administration. Donc, ces événements-là nous ont amené à nous intéresser aux apatrides anonymes, à nous intéresser au racisme institutionnel en milieu universitaire. Et donc, pour en discuter, nous recevons en studio David Austin, qui est professeur au Collège John Abbott et auteur de nombreux ouvrages. Bonjour, David.
Bonjour.
En commençant, je pense que ce serait bien de replacer ces deux événements-là dans un contexte historique. Est-ce que vous pourriez nous revenir sur la fameuse affaire George Williams, qui s'est déroulée en avril 68 à Montréal?
Oui, c'est ça. L'affaire sur George Williams a commencé en avril, c'est vrai, et se termine dans une certaine façon en février 1969. C'est une affaire qui implique des étudiants, pour la plupart de la Caraïbe, des Antilles anglophones, qui a déposé une plainte contre le professeur Perry Anderson, qui a... systématiquement donner des échecs aux étudiants noirs.
Qui était un professeur de biologie.
Oui, c'est ça. C'était un professeur de biologie et c'était dans un cours qui est très important pour les étudiants qui veulent suivre le médecin après.
Ouais.
Et puis, ils ont déposé le printemps en avril 1968. C'est ça. Et puis, l'administration n'a pas répondu. Peut-être ils ont pensé que c'était presque l'été et puis après ça ils ont oublié la situation et puis continuer avec quelque chose d'autre, c'est pas. Mais en 68, octobre 68, c'était le congrès des écrivains noirs à McGill et il y a toutes sortes de gens qui fait partie du mouvement de Black Power comme Stokely Carmichael, Harry Edwards, James Forman, C.L.R. James était là, Walter Rodney, et cet événement a inspiré les étudiants de continuer le print contre l'université. Et puis après toutes sortes de discussions avec l'administration, ils ont fait la décision de occuper le centre informatique. Après à peu près deux semaines, la police, ils ont entré dans le centre. Oui, les gens étaient arrêtés le reste, comme on dit, c'est history. Ils ont été battus. Il y a deux personnes Ann Cools et Rosie Douglas qui étaient mis en prison. Ils étaient mis en prison. Rosie Douglas a fait 18 mois en prison. Ann Cools, 4-5 mois en prison. Oui, les gens étaient arrêtés et maintenant mis en prison, c'est ça, oui.
Et qu'est-ce que, au-delà du racisme, parce que les exemples qu'on a évoqués, incluant l'affaire Sir George Williams, on parle de racisme institutionnel envers des étudiants et étudiantes, mais qu'en est-il du corps professoral, c'est-à-dire que ce soit les profs entre eux, les professeurs, les enseignants entre eux, mais aussi face à l'administration? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Est-ce que tu parles de...
Mais en général, aujourd'hui, le racisme institutionnel, est-ce que... Parce que les exemples dont on parle, ce sont des exemples qui touchent des étudiants et étudiantes, mais selon vous, qu'en est-il, tu sais, envers les profs? Est-ce qu'il y a un... Est-ce que c'est quelque chose qui existe également?
Non, ou... mais ça, c'est certain. Moi, j'enseigne dans un cégep, mais j'enseigne en temps partiel dans l'université aussi. McGill est parfois à Concordia. Mais c'est toujours là, dans plusieurs sens, dans le sens que il y a, pour la plupart, pour la plupart, il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans les études noires. Black Studies, dans l'université. Il y a des étudiants à McGill qui, depuis longtemps, et qui ont poussé pour études africaines.
Ouais.
L'étude africana qui inclut les diasporas aussi. Et puis, depuis longtemps, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, au Canada. Mais aussi, c'est pas juste les choses que les professeurs noirs, enseignent, mais même il n'a pas d'intérêt dans de cette notion de diversité. Mm. Il y a presque, à McGill, je ne sais pas, mais quand on considère que le Sir George Williams, ça fait 50 ans, et on voit la situation maintenant, il n'y a pas beaucoup qui a changé.
Non, c'est ça. C'est une question que je me posais aussi. Mm. Est-ce que 50 ans plus tard, tu sais, bon, on a vu certains exemples, mais est-ce que vous dites que ça n'a pas vraiment changé, non?
Pas beaucoup, mais si on peut revenir à le Sir George pour un second, parce qu'il y a quelque chose que je veux dire, parce que le Sir George, c'est un événement politique. Oui, ça touche le racisme, ça c'est certain. Mais c'est aussi c'était un moment dans lequel on peut parler de la solidarité entre les gens, les nationalistes par exemple. Il y avait des conversations sur le socialisme. Il y avait des gens qui, oui, ils se battent contre le racisme, mais ils ont parlé, ils ont avoir des discussions sur comment c'est possible de créer un autre monde.
Mm.
Ah oui. Et puis, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de racisme. C'est-à-dire que le racisme fait partie c'est un problème institutionnel qui est lié avec la classe.
Ouais.
OK. Avec, comment on dit ça, gender.
Ouais. Avec le genre
aussi. Alors, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une perspective intersectionnelle quand on parle de racisme. Et dans ce contexte-là, ils ont parlé de toutes ces choses en même temps. Et c'est pas juste le racisme dans un contexte séparé. Mais je crois que maintenant, quand on a ces conversations, c'est comme le racisme, ça existe.
Séparé
des autres enjeux.
Ouais, un peu comme si on avait, s'il y avait eu un recul par rapport à certaines analyses qu'il y avait il y a 50 ans.
Oui,
On va aller en musique courtement avec Paparicky et la pièce Immigrante et on revient dans quelques minutes avec David Austin. On est de retour en ondes avec les Apatrides Anonymes sur choc.ca et on est avec David Austin en studio pour discuter de racisme institutionnel dans les universités ou dans les milieux universitaires. Vaste sujet qu'on ne couvrira pas au complet aujourd'hui, c'est sûr. Mais je me demandais, David, selon vous, est-ce qu'il y a des différences entre les milieux universitaires français et canadiens, c'est-à-dire en France et ici, ou si on parle du Canada, entre les universités francophones et anglophones, en termes de racisme institutionnel ou en termes de culture?
Wow, ça c'est une question difficile à répondre, mais si on met cette question dans le contexte de Canada et Québec,
ouais.
Je crois que une des différences, c'est que quand tu as la majorité de population français-québécois, qui sont aussi une minorité dans le contexte de Canada, je crois que ça fait une différence au niveau de mentalité par rapport à les immigrants. Dans le sens que oui, c'est certain que le racisme existe dans Ontario, dans tous les autres contextes, ça c'est certain. Parfois j'ai des amis qui m'appellent quand il y a quelque chose dans les nouvelles ici, comme la loi 22 par exemple, ils m'appellent pour me demander qu'est-ce qui se passe au Québec, mais c'est pas que il y a des choses qui se passent ici qui n'existent pas dans les autres contextes, mais il y a cette particularité dans le sens que la majorité dans ce contexte ici, c'est une minorité dans un autre contexte. Et puis, je crois que ça change les relations entre les vraies minorités dans le contexte du Québec et la population de majoritaire dans ce sens-là. Mais à part de ça, on peut pas dire qu'il n'y ait plus de racisme, même dans les universités ou dans le contexte plus large, au Québec ou dans le reste du Canada. Mais le forme, c'est un peu plus spécifique, je crois.
On parlait tout à l'heure, tu sais, que le racisme, ça n'existe pas tout seul, c'est lié aussi à d'autres formes d'oppression, tu sais, dont oppression de classe, de genre et tout. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des différences entre les établissements, qu'il y ait des différences entre les institutions plus élitistes et celles plus, par exemple, je sais pas, comme McGill et VU, et aussi une université plus élitiste, disons que Concordia ou que l'UQAM, ou que est-ce que
ça, c'est aussi une question difficile. Mais si on pense historiquement, c'est pas par hasard que l'affaire Sir George Williams c'était Concordia aujourd'hui. Mm-hmm. C'est là que cet événement a déroulé, c'est pas à McGill. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup des immigrants, des gens qui viennent d'ailleurs, nombreuses qui viennent
des Caraïbes,
des Antilles dans les années 60. Et puis McGill a beaucoup plus cette mentalité élitiste, oui, qui n'accepte pas beaucoup de à l'époque, qui n'acceptait pas beaucoup des immigrants dans la même façon, et même les étudiants qui étaient acceptés, ils ont beaucoup plus les élites des Caraïbes, alors ça fait une différence, mais jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on peut pas, je sais pas, on peut dire que il y a que McGill c'est plus raciste que Concordia ou l'inverse. Même j'ai moins d'expérience, même si c'est vrai que j'ai fait mes études pour secondaire à l'Université de Montréal, je ne peux pas faire une comparaison entre cette université et UQAM, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand il y a plus, quand le nombre des étudiants minoritaires, entre guillemets, quand ils sont nombreux, les nombres sont plus élevés, c'est là qu'on voit des problèmes au niveau de réponse avec l'administration. Mais quand aux institutions où les demandes sont moins nombreuses, c'est différent dans ce sens-là, je crois.
Il y a, par rapport au racisme, justement, encore dans les universités ou dans les établissements scolaires postsecondaires, comme solution, il y a plusieurs endroits, plusieurs établissements qui adoptent soit des chartes, qui mettent sur pied des comités de médiation ou de surveillance, tu sais, du racisme. Selon vous, est-ce que il y a quelque chose à attendre de ce type d'initiative-là, ou est-ce que c'est simplement une façon pour les administrations de se donner bonne conscience?
Mais le racisme, c'est un problème systématique. Quoi.
Hein? Systémique, oui.
Systémique, je m'excuse. Et puis, moi, j'ai des collègues, des amis qui étudient à quelques universités, ils étaient obligés de prendre un mental health break, on dit ça en français.
L'assurance santé.
Oui, à cause de
De prendre un congé maladie.
Oui, congé maladie, c'est ça, à cause de l'environnement. Alors, c'est un problème systémique. Et puis, c'est un problème culturel dans les institutions. Et si les institutions n'ont pas la volonté de changer la culture, et c'est une culture canonique en plus, c'est une culture qui à la base dire que il y a certains sujets, cultures qui sont plus importantes que les autres. Mm-hmm. Et quand les gens minoritaires ils vivent dans ce contexte-là, c'est comme ils commencent dans un point plus bas, parce qu'ils sont, c'est comme le humanité, ça, c'est pas reconnu par les institutions. Okay? Et puis, si les institutions sont pas, ils n'ont pas la volonté de changer ce coup de chaud, ça, les choses vont pas changer. Il y a toutes sortes de commissions, toutes sortes de,
des commissions, ou pas des tribunaux,
ça continue. Oui, ça continue. Alors, si les institutions, comme j'ai déjà dit, si les institutions ils sont pas la volonté de changer le culture dans les institutions, rien ne va changer.
Ouais, donc, selon vous, si on sanctionnait systématiquement les individus, tu sais, qui font du racisme, qui sont racistes, qui ont des comportements ou des propos racistes dans les universités, selon vous, ça changerait rien, ou parce que...
Non, mais sanctionner, c'est quelque chose, mais sans changer de structure fondamentale, c'est-à-dire que les problèmes sont... Le même type de problème va arriver encore.
Oui, c'est ça. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait, ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour changer justement ces structures-là, ou en tout cas s'attaquer au racisme institutionnel, mais à la racine dans les universités? Est-ce que le fait, je sais pas moi, une réelle place qui soit faite aux étudiants, étudiantes issus de cultures dites minoritaires, entre guillemets, qui soient sur des instances décisionnelles, ou qu'est-ce qui...
Je crois que la question, c'est quoi le rôle d'un universitaire? C'est quoi le rôle d'un universitaire? Est-ce que le rôle, dans le sens universel, de donner une éducation aux gens qui le mettent dans un, comment dire ça, qui le donne une éducation plus large au monde, pour comprendre que pour avoir une meilleure compréhension des êtres humains, ou est-ce que les universités particulièrement dans ce contexte là, est-ce qu'ils servent les corporations? Et en place de donner une éducation qui élevait les gens au niveau intellectuel et au niveau global. C'est ça la question pour moi. Et bien, je crois que nous on pose des questions comme nous on pose des questions dans le sens qu'on pense que l'université, le rôle de l'université, c'est de donner une éducation plus large, mais je crois que c'est pas...
Dans le sens des humanités, par
exemple.
Ça,
oui, c'est ça, mais c'est pas la même mentalité des administrations de l'université. Et ça va beaucoup plus dans la direction néolibérale, c'est ça.
Donc, on réglera pas le sujet ou la problématique aujourd'hui, mais ça donne beaucoup de matière à réflexion. Et ben merci, David, d'être...
Non, merci. Et merci pour votre patience avec ma mauvaise français.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Alors, on va repartir en chanson. Cette fois-ci, un peu plus revendicatif, avec « Descendons dans la rue » des Berruriers Noirs.
On peut se rappeler qu'hier, c'est pas fini, ça pourrait être demain. Ça s'appelle Descendons dans la rue. Descendons dans la rue avant que tout soit perdu.
On écoute, on entend encore, c'est Berruriers Noirs, Descendons dans la rue. Une captation live en 1988, quand même, au Zénith de Paris. Merci Marie-Ève pour l'entrevue. Merci spécial à David Austin et David Austin pour les explications sur un sujet qui méritait des éclaircissements. On en a eu, c'était très intéressant.
C'est assez vaste.
Comme tu dis, c'est des pistes d'exploration, puis on va falloir pousser peut-être plus loin ces sujets-là pour d'autres entrevues, tu sais.
Ouais.
Donc Simon, de retour en studio, c'est l'émission des Apatrides Anonymes sur choc.ca. Comme mentionné en intro, on vous fait un petit dossier sur le climat toxique actuel au Québec. sur le racisme qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, si ça existe. Là, on a eu tantôt des définitions. Mais par opposition au racisme systémique, qui, moi, je le vois, en tout cas, plus le résultat de pratiques administratives, de culture locale dans des entreprises, des institutions, de dispositions légales, etc. Racisme systémique, d'ailleurs, qui fait l'objet d'une consultation publique à Montréal. Va falloir qu'on vous en reparle éventuellement. Bref, ce racisme plus ordinaire, on va pas entrer nécessairement dans le racisme sur les réseaux sociaux ou dans certains gros médias. Je vais plutôt l'illustrer par quelques exemples de dossiers qui font actuellement l'objet de poursuites et par des témoignages qui ont été livrés dans les dernières semaines. Ce ne sera que la pointe de l'iceberg. Évidemment, la plupart des abus demeurent inconnus. Souvent, les gens ne portent même pas plainte par rapport aux abus dont ils sont victimes.
Non, c'est ça. C'est le propre de l'ordinaire et du petit racisme quotidien.
Bien, qu'on peut aussi, on parlait d'intersectionnalité tantôt, ouais. C'est la même chose pour les abus sexuels, hein, ouais. Par exemple. Quelques statistiques récentes pour commencer. Plus d'un tiers, soit 36 % des personnes tuées par balle par la GRC sont autochtones. C'est selon des documents internes obtenus par le Globe and Mail grâce à une demande d'accès à l'information. Les agents de la GRC ont tué 61 personnes au Canada entre 2007 et 2017. Dans 22 des cas, donc 22 meurtres sur 61, la victime était autochtone. Une bonne proportion, 12 de ces meurtres-là, ont eu lieu directement dans une communauté autochtone. Lorsque interpellée, la GRC déclare qu'elle ne conserve pas de données détaillées fondées sur l'ethnie dans les incidents impliquant une arme à feu et que donc elle ne commentera pas davantage. Bravo.
Permettez-nous d'en douter.
Ben, en plus, ben, les statistiques proviennent de la GRC qui ont été obtenues par le Globe and Mail, donc, enfin, bref.
C'est ça.
La solution, donc, on s'en rend compte, elle viendra probablement pas de la GRC elle-même. Ça va probablement prendre une décision judiciaire forte pour les contraindre à prendre des mesures. Autre statistique assez évocatrice, le mois dernier, un rapport universitaire dévoilait qu'à Montréal, les personnes noires courent en moyenne 4 fois plus de risques d'être appelées à s'identifier par un policier que les personnes blanches. Le rapport mentionnait aussi une surreprésentation des personnes d'origine arabe et autochtone parmi les personnes ayant été interpellées par la police. Quelques exemples un peu plus concrets maintenant. J'ai choisi 4 cas, si je me rappelle bien, la dernière révision du texte que j'ai fait, c'est tout chaud, c'est tout frais. Cas numéro 1, en février 2016, Rivellino Bélisère a été arrêté par le policier Éric Loca pour une infraction mineure du Code de la route. L'agent du SPVM aurait alors fait preuve d'agressivité, il s'est moqué de son nom. Il a par la suite décidé de se rendre au cégep Onsic où M. Bélisère travaille pour rencontrer son supérieur qui n'était pas là. Il est donc retourné le lendemain. Un genre de ce qui est complètement zélé et irrégulier de la part d'un policier. Suite à cette intimidation grave de la part du policier, c'est avec l'appui du CRAR, le Centre de recherche et d'action en relations raciales, que M. Bélisère a réussi à obtenir l'appui de la Commission des droits de la personne pour aller devant les tribunaux. Le policier Locas, je ne suis pas certain comment le prononcer, avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes en déontologie. Il avait même reçu des sanctions. Il faut rappeler que les plaintes doivent être très bien fondées pour en arriver à une sanction. La majorité des personnes qui avaient porté plainte contre lui étaient issues des minorités visibles, évidemment. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande maintenant à la Ville et aux policiers de remettre 18 000 $ à M. Bélisère. On va surveiller de près pour vous le développement dans ce dossier. C'est pas encore réglé.
Et si, oui? Si je peux me juste une petite
tu peux te permettre.
Anecdote, le fait qu'il ait été interpellé pendant qu'il conduisait, tu sais, pour supposément un excès de vitesse ou quelque chose, aux États-Unis, ça arrive tellement souvent qu'il y a même une expression pour ça. Ça en anglais, on dit black while driving, ce qui veut dire conduire en étant noir,
ouais.
Qui serait comme une nouvelle forme d'infraction.
Dont l'infraction est simplement d'être noir.
Voilà.
On n'a pas d'équivalent en français, je pense, mais on en inventera un. Puis, et ça, pour terminer sur ce cas particulier, le policier Éric Loca, il est toujours dans les rues à travailler avec la population actuellement. Deuxième cas. Début novembre, une famille musulmane de Laval a reçu une lettre anonyme menaçante quelques jours seulement après son installation dans sa nouvelle maison. L'enveloppe contenait une photocopie d'une chronique portant sur le hijab publiée dans le Journal de Montréal. Une parmi mille autres chroniques haineuses de Ravary, Martineau, Boccoté ou un autre...
Et consort
de la milice fasciste de Québécois. La chronique était annotée de commentaires écrits au stylo de genre « Arrête de nous confronter, on veut pas de hijab islamique, abat le lavage de cerveau des adolescentes, c'est-tu compris? » Il y a ensuite eu une genre de vague d'amour sur Internet, des soutiens qui sont arrivés, ben, qui sont manifestés de différentes façons envers la famille. C'est fantastique, faut le souligner. Mais ça reste un geste haineux parmi des centaines et c'est directement alimenté par le plus gros empire médiatique au Québec. Cas numéro 3. Il est assez effrayant, celui-là. Comme, ben, ils sont tous effrayants, je dirais. Surtout si on le vit, ça doit être passablement angoissant. Nouella, 19 ans, originaire du Maroc, caissière dans un Walmart de l'Est de Montréal, elle a appelé le SPVM suite à une agression xénophobe. Une dame enragée l'avait agrippée et insultée avec des « hosties d'arabe, retourne chez vous ». C'est au moment de lancer une caisse de bouteilles d'eau à la caissière que d'autres employés sont finalement intervenus. Paraît que parmi les clients qui assistaient à la scène, il y en a qui trouvaient ça bien drôle, il y en a qui filmaient, mais aucun n'est intervenu. Une fois les policiers sur les lieux, ils auraient découragé... Ben, ils lui auraient dit que la cliente avait aussi rapporté l'incident et l'aurait découragé à porter plainte. Une policière lui aurait aussi dit qu'elle pourrait aller en prison si elle portait plainte contre la cliente. Si c'est vrai, c'est quand même hallucinant, puis c'est surtout très faux, là. Les policiers auraient par la suite refusé d'écouter la plupart des autres témoins, tous des employés, parce que plusieurs aussi étaient d'origine arabe ou maghrébine. Aujourd'hui, avec l'appui du CRAR, Nouella a porté plainte contre les policiers. D'après le CRAR, Nouella aurait pu porter plainte pour agression physique à caractère haineux dès l'arrivée des policiers et la police aurait dû enregistrer la plainte. Point final. Ensuite, ben, il y a enquête, évidemment, pour déterminer si la plainte est retenue, c'est ça, ou non. La jeune femme souhaite aussi porter plainte contre son ancien employeur, Walmart, qui, selon elle, n'a pas fait grand-chose pour la protéger. On lui aurait seulement demandé de rester très poli avec la cliente si jamais elle revenait au magasin.
Ah non, pas question que la cliente soit barrée, évidemment, non.
Ben non, il faut, le client a toujours raison.
Oui.
La madame était contente. Bon, voilà, ça c'était juste quelques exemples de cas qui sont actuellement en arbitrage. On pourra en relater comme ça durant toute l'émission et même au-delà. D'autant plus que vendredi dernier, il y avait une commission de la sécurité publique à Montréal. Il y avait un micro ouvert sur le sujet. Il y a eu toutes sortes d'autres témoignages, des cas vraiment particuliers. Je vais vous en citer un. Cas d'enfant noir d'à peine 12 ans menotté dans un char de police et accusé de vol de voiture en marge d'un anniversaire familial avec menace de les confier à la DPJ. Il s'avère finalement que la vitre brisée de la voiture qui avait servi de prétexte pour cette intervention sur les enfants, ben, elle était brisée depuis plusieurs jours. La police de Repentigny, dans ce cas-là, ben, refuse évidemment d'indemniser la famille des petites victimes de cette énorme bavure. Dernier cas dont je vous parle, je résume ça très rapidement, un monsieur McTorn Baillé, il passait en entrevue une dame dans un Tim Hortons pour une job. La police est arrivée pendant qu'il passait l'entrevue, puis ils se sont mis à l'interpeller, à lui poser des questions, et les policiers ont avoué qu'il y avait eu un appel d'une autre cliente du Tim Hortons parce qu'elle pensait que c'était un proxénète qui était en plein recrutement pour un réseau de prostitution.
Oh my God!
Donc, par rapport à tout ce niaisage-là, ces situations de profilage, d'abus, finalement, on relance encore l'idée, plusieurs organismes, de l'installation de caméras portatives sur les agents de police, projet pilote qui avait été avorté par l'administration Plante. On disait que c'était trop coûteux, trop compliqué, que c'était pas efficace. On voudrait simplement que la police ait une politique sur les interpellations et qu'elle soit respectée, ou même que Québec encadre et une politique provinciale, si on veut, comme c'est le cas en Nouvelle-Écosse, pour déterminer dans quel cas de sécurité publique majeure on peut interpeller sans raison un citoyen, une citoyenne. On voudrait aussi, dernier élément dont je vais vous parler, une reddition de compte publique annuelle sur le thème des interpellations, ce qui permettrait d'avoir des données probantes qu'on peut étudier, qu'on peut analyser année après année pour voir s'il y a des progrès. Sinon, le commissaire à la déontologie, ben lui, évidemment, il dit « faites des plaintes », mais beaucoup de gens ont peur de faire des plaintes ou croient simplement que ça donne rien. Puis souvent, une plainte donne forcément lieu à une rencontre avec le policier, ce qui intimide beaucoup de personnes. Puis on se demande aussi finalement est-ce que ça donne vraiment quelque chose au bout du compte, d'autant plus qu'il faut démontrer, preuve médicale à l'appui, qu'on n'est pas psychologiquement apte à confronter son policier. Donc tout ça est un petit peu tordu, je dirais, un petit peu complexe aussi. Quelques chiffres pour terminer, quelques secondes. Nombre de dossiers en profilage racial pour l'ensemble des forces policières au Québec depuis 2011. Il y en a 104 qui ont été rejetés pour preuves recueillies dites insuffisantes. 38 dossiers ont abouti à un règlement. 6 dossiers ont abouti à un jugement. Donc, on voit, faites vos calculs, c'est assez éloquent. Donc, c'est notre dossier très rapide, très résumé, racisme ordinaire et climat toxique au Québec, à l'émission des Apatrides sur choc.ca. Dans un tout petit instant, Mathieu revient en studio pour l'agenda antiraciste. Mathieu, de retour en studio à l'émission des Apatrides, tu nous présentes l'agenda, le traditionnel agenda antiraciste.
Oui, pour les deux prochaines semaines à peu près, plusieurs événements. Vous allez voir, on est dans la même thématique, malheureusement. Demain soir, vendredi le 29 novembre, 18h30, au Centre des femmes de Laval, une soirée commémoration pour une femme qui est appelée Madame M, et aussi qui est en même temps une soirée qui arrive à peu près à chaque année au Centre des femmes de Laval, de rédaction de cartes de vœux pour les femmes qui sont à la prison Leclerc. Et à la prison aussi pour les migrants à Laval. Mais dans le cas de Mme M, peut-être que vous avez entendu parler de ce cas-là. C'est assez dramatique. Elle s'était réfugiée en 2010 au Québec avec ses trois enfants pour fuir un mari violent aux États-Unis. Elle est canado-américaine, elle a les deux citoyennetés. Et depuis plusieurs années, elle a des poursuites pour avoir volé, ben, cette partie kidnapper ses enfants. Les États-Unis veulent l'extrader aux États-Unis pour la juger et qu'elle ramène ses enfants. Elle demande la protection depuis un bon bout de temps. Et la Cour suprême, le 17 octobre dernier, a entériné son extradition. Et deux semaines plus tard, il y a quelques jours, elle s'est enlevée la vie dans sa prison à Leclerc, rien de moins. Et c'est un cas qui avait quand même été beaucoup médiatisé. Elle habitait dans la région de Lac-Mégantic, en Estrie. Elle était appuyée par plusieurs organismes de femmes. Elle avait été en hébergement avec ses enfants. Moi, je ne savais pas qu'elle était décédée depuis quelques jours. J'ai appris ça par cet événement-là qui a lieu demain soir au Centre des femmes de Laval. Et donc voilà, fait que c'est une histoire vraiment triste, on mélange prison, immigration, violence conjugale, et évidemment l'événement fait partie des 12 jours contre les violences faites aux femmes qui a lieu jusqu'au 6 décembre pour la 30e commémoration du féminicide de Polytechnique. Donc voilà, il y a ça demain soir.
C'est une triste façon de commémorer, mais écoute, c'est la réalité, hein?
Non, ben on commémore dans le sens qu'on souligne, mais on ne fête pas, évidemment, c'est sûr. Donc ce cas-là, demain soir, sinon le 2 décembre, lundi prochain, le racisme et ses impact au Centre des femmes d'ici, d'ailleurs, un autre centre de femmes dans Villeray. On lance une vidéo du même titre, Le racisme et ses impacts, avec un guide de réflexion. Ce guide-là est le fruit d'une démarche collective de plusieurs mois du comité antiraciste du centre, formé par les participantes femmes, donc de toute origine. Toujours dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes en 2019. Peut-être vous dire que l'année passée, le Centre des femmes d'ici, d'ailleurs, a reçu près de 3000 demandes de soutien par des femmes majoritairement racisées ou immigrantes et qu'une sur quatre était en lien avec la discrimination et le racisme. Donc, c'est à partir de ces plaintes-là, de ces témoignages-là, qui sont en augmentation de 40% d'ailleurs depuis 2017 dans le cas de ce centre-là, qui ont récolté ces témoignages-là et produit ce guide de réflexion pour sensibiliser sur le racisme et les impacts sur les femmes. Donc, ça a lieu lundi le 2 décembre de 17h à 19h au Théâtre aux Écuries sur la rue Chabot. Et c'est un événement mixte et gratuit. Sinon, l'UPOP, je vous en ai pas parlé beaucoup cette saison, il y a un cours qui s'appelait « L'imaginaire colonial, violence, colonialisme et pouvoir en Nouvelle-France », c'est assez pointu, donné par Samuel Mercier, chercheur à Concordia. Le dernier des cinq cours a lieu le 3 décembre, mardi prochain, à 19h aux stations Hausse, et c'est quand même intéressant. On avait parlé un peu, Simon, entre autres, dans ta chronique « Ta minute coloniale », tu parlais entre autres souvent des Autochtones, et là on parle des prémices d'une nouvelle histoire. On présente les prémices d'une nouvelle histoire des représentations en Nouvelle-France, donc qui est un moment de fondation pour une nation, mais une catastrophe culturelle pour une autre. On peut deviner c'est qui est de chaque côté. Donc, ça permet d'aborder les aspects les plus sombres de la colonisation, les guerres, l'esclavage, les pratiques génocidaires, et aussi d'étudier l'imaginaire colonial et voir les lignes de continuité entre l'époque et maintenant. Et pour ceux et celles qui sont un petit peu férus d'histoire, il y a même le baron de Laotan qui apparaît dans ce cours-là comme un des...
Je le connais pas.
Un des plus fabuleux frotteurs de troubles de la Nouvelle-France, mais il est bien accompagné, il est avec des esclaves, des autochtones, des femmes, des criminels, des artistes, donc les gens qui ont un peu brassé la cage en Nouvelle-France, qui ont contesté l'ordre colonial, donc une brève histoire du désordre et de la liberté en Amérique française, ça c'est le 3 décembre, l'UPOP, donc aux stations Hausse, et j'ai le temps pour, oui, 4 décembre, le lendemain, donc mercredi de la semaine prochaine, lancement du projet Le Logement, clé pour une intégration réussie, un projet plus communautaire, je dirais la FECHIM, la Fédération des coops de Montréal, en collaboration avec le Centre social d'aide aux immigrants, lance une démarche donc pour sensibiliser à la fois les groupes qui viennent en aide aux immigrants, que les gens qui travaillent dans le milieu du logement, pour une meilleure intégration des nouveaux arrivants dans le logement social, donc OSBL, coop, HLM. Donc on parle ici toutes sortes d'actions, de contenus, qui vont être faites dans les différents endroits où il y a du logement social à Montréal. Donc à suivre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite en coopérative ou dans différents logements sociaux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants et qu'il y a souvent des problèmes de discrimination, encore une fois, donc pour des milieux plus inclusifs. Et je vais terminer avec le 6 décembre rapidement, donc jeudi la semaine prochaine, le lancement de la nouvelle revue Caminando du CEDAL, du Comité pour les droits humains en Amérique latine, et le nouveau numéro porte sur, ben, met en lumière les causes structurelles et les éléments déclencheurs des mouvements migratoires actuels en Amérique latine. Ça va t'intéresser, Simon. Donc, c'est lancé le 6 décembre au 53-59 Avenue du Parc, donc pour le CEDAL, et la FECHIM avec le CSAI. Ça se passe donc au 75-95 Boulevard Saint-Laurent. J'ai pas de nom de lieu, c'est drôle, j'ai des adresses. Donc, voilà pour le calendrier antiraciste militant de la semaine.
Merci, Mathieu. On revient dans un très court instant. C'est déjà terminé pour cette avant-dernière émission des Apatrides Anonymes en 2019. J'en profite pour vous laisser nos coordonnées encore une fois. On peut nous écouter en balado sur choc.ca ou dans notre site web apatridesanonymes.info. On peut nous écrire sur apatridesanonymes@resist.ca ou via Facebook où on a une page et où on essaie de mettre de l'information complémentaire le plus possible. Merci beaucoup à notre invité de la semaine, David Austin, pour sa très intéressante contribution. La prochaine émission aura lieu en direct des studios de Choc le jeudi 12 décembre à 18h30. Ce sera la dernière de l'année. On recevra entre autres des porte-paroles de Solidarité sans frontières. On va se laisser sur la pièce The Ostrich de la formation montréalaise de History of Gunpowder. Mais auparavant, merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Simon, à l'animation.
Ça fait plaisir. Merci, Marie-Ève, qui nous fait des grands tatas. Elle est à la console actuellement. C'était Simon au micro pour les Apatrides Anonymes. Merci de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines.
Bonne soirée.
Bonne soirée.